Camille Alary, Perlita. Chapitre 1. Le jour où, libéré du service militaire, le brigadier Martial Renoux allait dire adieu à la caserne de Constantine pour revenir en France, fut pour le 4e escadron du 2e Spahi l'occasion d'un festin de Balthazar. Le brave garçon avait su se créer des sympathies nombreuses et vivaces parmi ses compagnons d'armes. Son capitaine vantait souvent sa bravoure, dont il avait eu, en maintes circonstances, des preuves éclatantes. Ses camarades de chambrée l'estimaient, à cause de son caractère aimable, de sa franchise et de sa loyauté. Aussi ne voulurent-ils pas le laisser monter à bord de la frégate qui devait le rapatrier, sans lui offrir un punch d'adieu. La fête eut lieu au Café des Deux Mondes. Toast, acclamation, rien n'y manqua. Malgré sa rude écorce, Martial fut tellement touché de ce public témoignage de sympathie qu'il en pâlit d'émotion. Désireux de ne pas demeurer l'obligé de ses amis, il les convia, pour le lendemain, à un dîner de 30 couverts qui fut donné dans la cour de la cantine, transformé pour la circonstance en salle à manger, ornée sous la large tente qui mettait les invités à l'abri du soleil, les trophées de sabres et de drapeaux aux couleurs nationales. Il y eut un potage, trois plats, du vin à discrétion, le café et le pousse-café. Ce fut splendide. Au Gourbi, là-bas, au pays du simoun et des femmes aux yeux de velours, à l'époque des manœuvres, ce n'est pas sans attendrissement que les anciens, les moustaches grises, prononcent devant les recrues le nom de Martial Renoux. Chapitre 2. Sitôt rentré à Lyon, Martial reprit la casquette à pont, le pantalon et la longue blouse du charpentier. On ne s'enrichit pas au régiment. Et puis, outre la perspective peu rassurante d'une fin d'hiver, il y avait, au quatrième étage d'une maison noire du faubourg de Vèze, deux pauvres vieux qu'il fallait faire manger avant de s'occuper de soi. Plus qu'aucun autre, Martial aimait le travail. Au moment de partir pour l'armée, il avait laissé derrière lui une réputation d'ouvrier laborieux et point bambocheur, à laquelle les méchantes langues n'avaient pas osé porter atteinte. Maintenant qu'il atteignait la trentaine, il était probable que les habitudes d'ordre et d'économie, contractées malgré la fougue de la première jeunesse, ne permettaient pas à d'autres de les étouffer. D'ailleurs, il suffisait de regarder une minute l'ancien Spahi pour s'assurer sur sa bonne mine qu'il était plus que jamais décidé à marcher droit dans les étroits sentiers du devoir et que, si d'aventure, ses compagnons venaient à le blaguer sur ce chapitre, il avait les poings assez solides pour leur apprendre à le respecter. Les premières semaines furent dures. Les anciennes connaissances du charpentier s'étaient dispersées un peu partout. On ne se souvenait plus de lui. Ce ne fut qu'à force d'intriguer qu'il parvint à obtenir, de loin en loin, quelques journées. C'était maigre, mais Martial ne désespérait pas. Il avait le pressentiment d'un embauchage sérieux dans un avenir très prochain. De fait, les événements lui donnèrent raison. Peu de jours après, un entrepreneur lui proposa de l'engager, en même temps que 16 autres charpentiers, racolés au hasard. Il s'agissait d'aller édifier un cirque dans une grande ville maritime du Midi. Les travaux dureraient à peu près un mois. L'entrepreneur assurait une paie de 5 francs par jour à chacun des hommes. Martial devait, lui, en sa qualité de contremaître, toucher 8 francs. Ses propositions furent acceptées. Une fois les outils renfermés dans leur coffre de sapin, expédiés par le chemin de fer, l'équipe se mit en route pour le Midi. Chapitre 3. Le cirque, presque complètement terminé, dressait dans le bleu tendre du ciel la légère ossature de son dôme, tout au haut duquel se balançait une branche de laurier cravatée de rubans. Depuis peu, les plombiers avaient commencé le clouage des plaques de zinc. À l'intérieur, les tapissiers mesuraient le velours rouge des banquettes et les peintres, armés de gros pinceaux, imitaient sur les colonnes, préalablement revêtues d'une couche de blanc qui soutenait l'édifice, les veines violâtres du marbre. La besogne avait été rondement menée. Les chevaux et la troupe équestre étaient attendus d'un moment à l'autre. On allait être prêt, gagnant 3 jours sur le temps accordé. La gratification promise ne devait pas se faire désirer. Or, un samedi, soir de paix, en sortant de la gargote où les charpentiers prenaient leur repas, le loustique de la bande, un vrai gosse, proposa d'aller prendre une chopine de bière là-bas, tout là-bas, à côté du vieux port, dans les vieux quartiers. L'offre fut accueillie par des rires et des plaisanteries grasses. Alors, le même individu avoua que, la semaine précédente, ne sachant de quelle manière tuer sa soirée, il était allé, seul, faire une excursion dans ces parages. Et, à ses souvenirs, encore ébloui par l'étalage de chair vivante que ses yeux agrandis d'adolescent sensuel avaient pu fouiller, il parlait et riait haut, détaillant, avec de rapides mouvements de bras, les merveilles de ce bazar où les femmes s'achetaient pour presque rien. « Il y a jusque des négresses, » ajoutait-il en parlant du nez, « et rudement chic encore. Crédieu, ce n'est pas comme les guapes de chez nous. Oh, mes amis, fichez-vous dans le toupet que qui n'a pas vu ça n'a rien vu. C'est à s'en licher les doigts pendant 8 jours. Ça y est-il ?» Les autres, à demi convaincus, n'avaient pas l'air de vouloir prendre une décision. « Je ne comprends pas du tout, mais là, pas du tout, ce qui vous retient, » insista le loustique, « quand je vous dis que vous serez épatés. Et puis quoi, la vue ne coûte rien. Si, après avoir reluqué le gibier, vous vous obstinez à faire les dégoûter, je connais pas bien loin d'ici des bonnes pattes d'amis qui se dévoueront. » Cette fois, il n'y avait plus possibilité de reculer. Plusieurs voix répondirent « Allons-y. » La petite troupe s'ébranla. Seul Martial resta en arrière. « Qu'est-ce que tu fiches là ? » interrogea quelqu'un. Il fit quelques pas en avant. « Je n'en suis pas, vous savez, les noces, c'est plus de mon âge. Je vais me mettre à la paille. Bonsoir. »« Comment, comment, des manières ? » s'exclama-t-on. Des bras vigoureux enlacèrent sa taille. On l'entraîna de force. Chapitre 4. Après quelques secondes d'hésitation, guidés par le gosse, ils s'engagèrent dans une ruelle étroite et montueuse, au pavé gras, au mur lépreux, au milieu de laquelle un ruisseau jaseur, descendu des hauteurs occupées par les tanneries, roulait ses eaux chaudes et puantes qui, s'évaporant, l'emplissaient jusqu'au toit d'épaisses fumées grises. Au-dessus, entre les gargouilles des gouttières, un pan de ciel sablé de poussière de diamants. De distance en distance, des lanternes rouges ouvertes, au-dessous desquelles se devinait la silhouette, très forte de ventre, de quelques matrones faisant le guet, mettaient des scintillements d'étoiles dans la profondeur de la nuit. Une de ces créatures arrêta les charpentiers pour leur vanter, avec toutes sortes de sous-entendus, l'excellence des sujets de la maison qu'elle appuyait de son concours. « Allons, fit-elle, décidez-vous, entrez, on ne vous mangera pas !» Ils entrèrent. À droite du corridor, au rez-de-chaussée du lupanar, était une espèce de salon entouré de divans défoncés, ornés de glace, où, d'ordinaire, la sous-maîtresse recevait les visiteurs qui se présentaient en nombre respectable. C'est là qu'on les pria d'attendre. Un garçon vint allumer les becs de gaz. Quand il fut sorti, les Lyonnais prirent place, les uns sur les divans contre le Reps-Grenat desquels, tout le long des dossiers, les chevelures graisseuses des habitués avaient laissé des marques luisantes, les autres devant les glaces rayées, dans lesquelles ils se contemplaient, la main à la moustache ou les doigts dans les cheveux, avec des attitudes alanguies de bellâtres amoureux de leur personne. Dans le corridor, de sa voix de crécelle, la sous-maîtresse criait « Au salon, mesdames, au grand salon !» On entendit un froufroutement de robes dans l'escalier. Peu après, la porte se rouvrit, livrant passage au troupeau docile des filles de joie. Chapitre 5. Il y en avait 11 en tout. Pommadées, poudrées, maquillées, les bras et la poitrine nues, la joue pâle sous le fard, l'œil fatigué, les membres alourdis, elles firent leur entrée à tour de rôle, causant, riant, tenant relevée leur robe de soie dont les plis cassés battaient les chambranles de la porte. Elles s'installèrent au hasard sur les parties inoccupées des divans. Il y eut tout d'abord un moment de gêne. La plupart de ces dames, fort peu encouragées par cet accueil froid, s'étaient mises à rouler des cigarettes. D'autres, voulant donner une meilleure idée d'elles, tricotaient. On se regardait sans souffler mot. On réprimait des sourires. L'embarras des hommes était visible. Tout à coup, une Suissesse, rousse et mafflue, au profil de chèvre, dont, à chaque minute, la gorge opulente menaçait de déborder par-dessus son corsage de velours noir, s'écria, avec un geste de lassitude et d'énervement, « C'est étonnant comme c'est gai ici! Qui baye un boc ?» Cette exclamation rompit la glace. « Oui, des bocs, des bocs !» réclamèrent toutes les femmes. La sous-maîtresse reparut, reniflant une prise. « Ces messieurs offrent-ils des bocs à ces dames » demanda-t-elle, du seuil, s'adressant plus spécialement à Martial, dont la bonne mine paraissait lui plaire. « Va pour les bocs !» répondit celui-ci, après avoir consulté ses amis du regard. Alors, les conversations particulières s'engagèrent. La bière fut apportée. On trinqua. Petit à petit, l'intimité grandissait. Des groupes s'étaient formés dans les coins qu'obscurcissait l'ombre. Chaque homme avait choisi sa préférée entre les femmes. Ces dernières se prêtaient à mille complaisances propres à éveiller l'ardeur de leurs amants de hasard. Les bras se nouaient autour des tailles et, parfois, de toutes ces lèvres brûlées de désir, parmi les fusées des éclats de rire, des baisers s'envolaient, furtifs et discrets. Chapitre 6. Le visage altier, l'œil vif et, par-dessus tout, l'air aristo de Martial avait attiré l'attention d'une des filles soumises, une brune, frêle, aux yeux songeurs, au teint d'une pâleur dorée. Sur un signe du charpentier, elle vint, souriante et sans morgue, s'asseoir sur ses genoux. Elle répondait tant bien que mal à ses questions, s'exprimant en un baragouin, moitié patois, moitié français, sous lequel perçait l'intonation gutturale des Basques. Elle déclara s'appeler Perlita. Barcelone était sa patrie. Perlita pouvait avoir 22 ans. À quelle famille appartenait-elle? Quel vice précoce l'avait traînée dans ce bas-fond de grande ville, dans ce trou immonde où, voracement luxurieux, des matelots gorgés de vin venaient à la brume, se dédommager des longues privations endurées sur les mers lointaines, nul ne l'a jamais su. Dès les premiers mots, Martial fut séduit par le charme en babil et la grâce enfantine de l'Espagnole. Il la tenait étroitement enlacée. Pelotonnée contre lui, les jambes croisées de façon à mettre à découvert ses pieds cambrés, chaussés de bottines à talons de cuivre, elle répondait à ses interrogations, tantôt en plongeant son regard dans le sien, tantôt en penchant, avec des allures mutines, sa tête au profil régulier, dans les épais cheveux de laquelle une rose couleur de sang était en train de mourir. « Perlita ?» demanda le charpentier en s'efforçant d'adoucir sa voix. « Et sans doute un nom de ton pays ? Il veut dire ?»« Petite perle, te plaît-il ? » ?»« Il est charmant et, en tout point, digne de toi. » Elle ne parut pas comprendre ce qu'il y avait de flatteur pour elle dans ce compliment et reprit. « Quand j'étais petite, toute petite fille, mon père avait pour ami un beau torero qui me mangeait de caresses toutes les fois qu'il venait à la maison. Il était constamment vêtu d'or et de soie. Je l'aimais beaucoup à cause de cela. « C'est une perle !» disait-il en m'embrassant. « Plus tard, lorsqu'elle sera femme, les galants et les aubades ne manqueront pas. Ah, les solides barreaux qu'il faudra faire bâtir contre les fenêtres !» Et le surnom t'est resté ? Oui, mais cependant il ne m'appartient pas, puisqu'il n'a jamais figuré sur les registres de ma paroisse. Quel est ton nom véritable ? Magdalène. Il y eut un court intervalle de silence, après lequel Perlita, ayant réfléchi, releva la tête et sans changer de pose. « Pourquoi me demandes-tu ça ? » poursuivit-elle. « Parce que je m'intéresse vivement à tout ce qui a quelque chose de commun avec toi. » Chapitre 7. Elle le regarda, puis, rejetant son buste en arrière, répondit, en riant d'un beau rire qui démasquait la double rangée de ses dents petites, serrées et blanches. « Ah, tu es bête, tiens! Est-ce qu'on dit ça ici ?» Interloquée par cet accès de gaieté qui, éclatant avec des notes métalliques de grelots, secouait le corps souple de la jeune femme, Martial, en proie à un trouble extrême, porta à ses lèvres son bras rond, glacé de reflets satinés, et, courbé sur elle, muet, le baisa longuement. Perlita glissa entre ses mains pour reprendre le boc qui lui avait été servi et au fond duquel un restant de bière pétillait encore. Elle but deux ou trois gorgées, revint vers le charpentier et, se baissant de manière à rapprocher le verre de sa bouche, « Tiens, » fit-elle en tendant ses bras avec un joli geste de statue, « il y en a encore un peu. Bois à l'endroit où j'ai bu, si tu ne crains pas de prendre mon mal. » Martial but avidement. Quand il eut fini, elle replaça le boc sur le marbre fendu de la console et revint s'asseoir sur lui. « Tu me plais, toi, » dit-elle en lui mettant un gros baiser sur les yeux. « Je t'aime déjà tout plein. » Montrant, ensuite, le fond du salon déserté depuis peu, elle continua. « Fais comme tes amis. Allons, viens, monte dans ma chambre, tu verras comme je suis. » Et carrément, sans aucune honte, pour prouver sa supériorité, elle acheva sa phrase par un mot obscène. Martial ne bougea pas, le côté saillant du caractère de ce robuste mâle qui, d'un coup de poing velu, aurait pu assommer un bœuf, était la naïveté. La proposition, pourtant très naturelle, si l'on tient compte du milieu dans lequel elle vivait, que Perlita avait cru devoir lui faire à brûle-pourpoint, bouleversait tout son être. L'histoire navrante de cette fille venait d'éveiller tout ce qu'il y avait en lui de tendresse et de pitié, et son cœur, simplement bon, se fondait lorsque, mentalement, il essayait de reconstituer les divers incidents dont elle n'avait pas parlé, de sa vie infâme de fille publique. Il s'imaginait de bonne foi que, dans une partie quelconque de ce corps, il devait y avoir une place, un coin sacré, où pas une éclaboussure de la fange du dehors n'était entrée. C'était pour toutes ces raisons que, malgré les alléchantes promesses de la belle fille, il mettait une certaine délicatesse, une sorte de point d'honneur, à ne pas en venir immédiatement au fait avec elle. « Non, non » bégaya-t-il, tandis que des flots de sang envahissaient ses oreilles. « N'insiste pas, je reviendrai un autre soir, demain peut-être. » « Je ne te plais pas ? » interrogea-t-elle en jetant ses bras autour de son cou. « Si, oh, je t'assure que si, mais pas ce soir, je t'expliquerai plus tard. À présent, tu ne saisirais probablement pas. » Elle insista avec tant d'acharnement, l'alluma si bien que Martial, craignant de la peiner, s'avoua vaincu. « Tu viens ?»« Oui, je te suis. » répondit-il en fixant sur toute sa personne ses yeux bleus que traversaient des éclairs de convoitise. Perlita sortit, une main à la rampe, suivie du bouillonnement de ses longues jupes raidies par l'amidon, elle se mit à sautiller de marche en marche. Derrière elle, la face congestionnée, le front bas, Martial, dévoré de désirs fous, montait. Dans le salon complètement vide, la langue aiguë d'un bec de gaz, dépassant sa prison de verre, faisait éclater le globe central du lustre. Chapitre 8. Debout sur le seuil de la porte, Angèle la Toulousaine, toute dépoitraillée, fumait sa cigarette. C'était une fin de journée de dimanche. La rue, déjà grouillante d'une cohue de matelots et de troupiers en goguette, semblait se peupler davantage à mesure que le noir de la nuit descendait. Brésillantes comme autant de gueules de fournaise, des devantures de licoristes flambaient dans les ténèbres indécises, jaunissant les chimères ailées qui soutenaient les balcons des maisons d'en face. Noyés dans les flots de la foule turbulente, impassibles sous leurs guenilles, un joueur d'accordéon et un harpiste allaient et venaient en chantant. Tout à coup, la grande Angèle rentra dans le couloir, criant « Perlita, Perlita, viens donc voir ton amant qui arrive !» L'Espagnole l'eut bientôt rejointe. Toutes deux se penchèrent au dehors. Au bout de la rue, frôlant des coudes les Calabrais, qui, réunis par groupes, une main à la bouche pour enfler leur voix, braillaient des refrains de leur montagne, Martial apparut. Endimanché des pieds à la tête, un foulard écarlate au cou, un petit bouquet de violettes à la boutonnière de son veston, il marchait d'un pas allègre et décidé. « Il t'apporte encore des violettes !» observa Angèle sur un ton moqueur à l'oreille de Perlita. « Ah oui, les fameuses violettes, parlons-en, j'aimerais mieux des gants. »« Je crois qu'ils en donnent pas mal.
Pas assez.
Il n'est déjà plus de ton goût.
Eh, j'en ai plein quelque chose de lui.
Moi, si j'étais à ta place, avec un homme aussi godiche que ça, j'aurais bientôt mon baluchon.
Elle n'eut pas le temps d'en dire plus long. Martial était devant elle. Par discrétion, la Toulousaine s'éclipsa. Le charpentier s'était emparé des mains de l'Espagnole et les pétrissait entre les siennes.
« Tu vois que je songe toujours à ma petite femme, » soupirait-il, le regard trempé de tendresse en lui présentant son bouquet. « Je te les donne afin qu'une fois partie, elle te parle encore de moi. Avoue que c'est joliment gentil ce que je fais là. »
Elle prit les fleurettes, les planta droit entre ses seins, puis, sans le remercier de l'attention,
« Tu offres un verre ?
Parbleu, quand on a de ça, on offre de tout. »
Et, joyeux, en jambant l'escalier, il la précéda tandis que ses ongles, frappant sur le drap de son gousset, faisaient rendre aux pièces d'argent un bruit doux et clair. Les plus hautes vitres du salon étaient ouvertes. Un peu de fraîcheur entrait de la rue. Les autres femmes, assises en cercle, écoutaient Angèle qui, des cartes sur ses genoux, leur expliquait le grand jeu. Derrière elle, à cheval sur sa chaise, une nouvelle venue, courte et boulotte, aux allures aux masses, racontait en montrant ses dents gâtées qu'un soir, dans les premiers temps de son séjour à Bordeaux, elle avait couché avec un évêque, retour de l'Amérique du Sud. Toutes se dressèrent pour les laisser passer. Peu après, dans la chambre de Perlite, la bougie, placée auprès d'une pendule, en métal doré, veuve de ses rouages, projetait sur les rideaux blancs tirés devant la fenêtre l'ombre courbée de l'Espagnol en chemise.
Chapitre 9. Chaque dimanche, depuis le soir où, pâmée, jouant l'excitation du délire, elle s'était affaissée sur lui, Martial apportait ainsi à celle qu'il appelait sa maîtresse un bouquet de violettes de 2 sous. Pour lui, il y avait dans cet acte comme l'accomplissement d'un devoir. Il se persuadait volontiers qu'à la longue, ses galanteries, cette constance toujours en éveil, finiraient par mettre un peu de sa flamme dans le cœur de l'Espagnol. Et il la comblait de petits soins et d'égards. Il avait acheté pour elle un tas de bibelots dont, facilement, elle aurait pu se passer. La semaine précédente, comme Perlita désirait une bague, sans l'avertir, il s'était empressé d'en faire l'acquisition. Et les choses se passaient toujours de cette façon. Si, devant lui, elle avait convoité 2 étoiles pour pendre à ses oreilles en guise de boucle, il eût été capable d'aller les ravir là-haut. Car une véritable passion consumait cet homme qui, jusque-là, avait su se préserver de toute liaison féminine. Insensiblement, elle s'était développée en lui, absorbante, envahissant tout, l'aveuglant, ne laissant de place ni pour une autre pensée, ni pour un autre sentiment. Après sa première visite, une semaine entière s'écoula sans qu'il remît les pieds dans la maison de tolérance. Il y retourna le lundi d'après, puis, presque sans s'en douter, le jeudi et le samedi. Et comme, à chaque nouvelle visite, ses désirs devenaient plus cuisants, il en vint à ne pouvoir passer une soirée sans sa Perlita. Il arrivait seul, craintif, s'installait dans un coin n'importe où. La sous-maîtresse faisait demander l'Espagnol, qui, le plus souvent, était en compagnie. L'autre attendait, se faisant humble, voulant être oublié, les mains aux genoux, rêvant. Un gros chat noir, avec une tache blanche entre les yeux, qu'il avait vu rôder dans l'escalier le premier jour, s'était pris d'affection pour lui. Il sautait sur ses jambes et s'étirait en ronronnant, la queue fouettante, pendant que Martial, distrait, caressait son échine. Puis, lorsque Perlita descendait, on se mettait à bavarder. On servait des verres de cacao. De temps à autre, la fille soumise, sans s'occuper du matou qui se frottait le dos contre les volants de ses jupes, fourrageait dans les poches du lyonnais, d'où elle finissait toujours par tirer quelques pièces de 40 sous. Alors la sous-maîtresse reparaissait, et de sa voix rauque, tandis qu'un sourire canaille plissait ses joues recouvertes de parchemin.
« Eh bien, les amoureux, vous devez avoir assez blagué, j'espère. Montez-vous. »«
Rien ne presse, » répondait timidement le charpentier. « Ayez un peu de patience. » Il balbutiait, trouvait de vagues paroles, cherchait des faux fuyants. Le temps passait.
D'autres visiteurs entraient, on réclamait l'espagnol. Et quand la sous-maîtresse revenait à la charge, plus pressante, grondeuse, Martial, honteux d'être forcé de laisser deviner qu'il n'avait pas sur lui la somme suffisante, s'élançait dehors, rouge de colère, les oreilles saignantes, embarrassé de sa personne, rasant les murs, avec des regards en dessous de gamins surpris le nez dans un pot de confiture. La même scène se renouvelait presque tous les soirs. Avec sa candeur de bébé, le charpentier n'avait pas encore compris, à certains chuchotements, à certains gestes échangés derrière son dos, que Perlita et les autres gueuses le bafouaient, se moquaient de tout ce qu'il y avait de bon en son être, riaient à se tenir les côtes lorsque, par hasard, elle parlait de lui. Chapitre 10. Il y avait des semaines que le public curieux d'applaudir au tour de force des acrobates et des écuyers regorgeait dans le cirque. Il y avait longtemps aussi que les camarades de l'équipe étaient retournés à Lyon. Martial, lui, restait. Sa ville natale ni ses proches ne l'attiraient plus. Il ne voyait rien au-delà de cette maison borgne où, jamais assouvie, l'ardente espagnole, vautrée sur des draps sales, vendait sa beauté perverse et ses sanglots de plaisir. Maintenant, il songeait à retirer Perlita du bourbier, la soustraire à la vilissante surveillance de la police des mœurs, lui refaire une honnêteté, vivre avec elle, sans partage, éternellement, avec la joie de l'avoir sauvée, était le but vers lequel se tendaient toutes les puissances de son organisme. Mais pour atteindre ce résultat, il fallait de l'argent, beaucoup d'argent. Martial en manquait. Il avait fait part de ses intentions à Perlita. Elle les encouragea sans trop montrer, cependant, la joie que lui donnait l'espérance de sa liberté à jamais reconquise. Un obstacle vint tout arrêter. L'Espagnol avait des dettes. Elle en prévint le charpentier. Celui-ci demanda « Combien ?»«
2 500 balles à peu près. »
« Tu les auras. »«
Vrai ? Bien vrai ?»
Avant 6 mois, foi de Spahi. Martial tint sa promesse. Aiguillonné par la jalousie, il se remit au travail avec un entrain qui aurait pu servir d'exemple. Comme le chômage commençait à se faire sentir, très aise d'éviter la morte saison, il se fit admettre, en qualité de journalier, dans un chantier de construction navale. La besogne était la même, à peu de choses près. Quant à lui, il saurait bien se faire remarquer et parvenir par la suite à une situation meilleure. Il avait presque amassé le tiers de la rançon de l'Espagnol quand, un soir, le Lyonnais, qui revenait du chantier, ne voulut pas rentrer à sa gargote sans avoir, au préalable, averti Perlita qu'il lui serait impossible de la venir visiter le lendemain. Il faisait très chaud. Au-dessus du quartier populeux, dans la buée laiteuse que les becs de gaz trouaient de lueurs de phare, des rires et des chants flottaient. Martial était encore assez éloigné de la maison aux fenêtres cadenassées où il avait laissé son cœur. Malgré la distance, il distingua sa maîtresse qui, adossée à l'une des persiennes du salon, la gorge nue, provocante, s'entretenait avec un caporal. Tout entière au charme de l'entendre, Perlita, les cils baissés, secouait du bout du doigt la barbe d'une de ses épaulettes. Le militaire, sa moustache blonde luisante de cosmétique, le képi fièrement posé sur l'oreille, ses gants de filoselle retenus par la boucle de son ceinturon, prenait des airs vainqueurs. En deux bonds, il fut auprès d'eux. « Rentre » ordonna-t-il à l'Espagnol.
« Attends un instant » répondit-elle sans se déranger.
« Je te dis de rentrer !»«
Mais puisque j'ai affaire avec monsieur !»
Pendant la minute de silence qui suivit, le charpentier était devenu livide. Un tremblement de rage contenu le secouait. Devant lui, immobile, campé sur ses ergots de jeune coq, une main à la hanche, l'œil gonflé de mépris, le caporal le défiait. Martial insista, avec moins de rudesse.
« Crois-moi, ta place n'est pas là. Montons chez toi, j'ai quelque chose à te... »« Ah, tu es assommant à la fin, sais-tu » siffla-t-elle, les poings crispés, en lui coupant la parole. Alors, un voile rouge obscurcit le regard de Martial. On l'entendit rugir. « Bougre de salope !»
Il se rua sur le caporal, qui l'envoya d'un coup d'épaule, roulé dans le ruisseau. Puis, revenant vers Perlite, il la saisit par les cheveux et, sortant de sa poche un compas qu'il ouvrit, le lui enfonça à deux reprises, tout sanglant, dans le côté gauche. Barricadés sous les combles, les autres drôlesses, affolées, hurlaient d'épouvante. Les voisins criaient « Au secours !» Le caporal, très penaud, se relevait pour mettre le sabre au poing. L'arrivée de la patrouille, que des passants étaient allés requérir au poste le plus rapproché, l'obligea à renfoncer l'arme dans son fourreau. Le charpentier, comme hébété, se laissa conduire sans résistance. Au fond du salon, sur le divan crevé en travers duquel on l'avait étendu, l'Espagnol, la bouche pleine d'injures, venait de se lever toute droite. Une convulsion l'abattit sur la pourpre des coussins. En face du néant, ses beaux yeux, ouverts, demeuraient fixes.
Chapitre 11. L'enquête commencée par le magistrat instructeur ne fut pas difficile à diriger. Après avoir avoué qu'il ne portait son compas sur lui qu'afin de tuer Perlite, si jamais, en sa présence, elle osait le tromper et demander d'assumer seule toute la responsabilité de son crime, l'ancien spahis s'enferma dans un mutisme dont, même au moment les plus critiques de l'instruction, il ne sortit pas. Les rigueurs de la prison préventive, les traquenards des interrogatoires, les menaces n'eurent aucune prise sur sa fermeté. Fidèle à la ligne de conduite tracée, il sut demeurer digne et maître de lui. Des mois s'écoulèrent. L'affaire de la rue du Figuier allait venir aux assises. Martial n'avait point désigné de défenseur, on dut lui en nommer un d'office. Devant ses juges, l'amant de l'Espagnol ne se départit pas de son calme. Ayant répondu sans farfanterie aux questions du président, il ajouta « Je vous ai dit que j'étais coupable. Je crois inutile de compléter cet aveu. J'ai déshonoré mon nom. La vie est un poids trop lourd pour mes épaules. Prenez-la en expiation de ma faute. » Mais pour Dieu, ne me faites pas attendre. » Puis il reprit sa place entre les gendarmes. Les témoins à charge et à décharge allaient déposer. En état de l'importance de l'affaire, du retentissement qu'auraient les débats, le procureur général, nommé depuis peu, ne voulut céder à personne le soin de porter la parole. Il se leva au milieu d'un grand mouvement d'attention. Après quelques mots d'exorde, il parla de « la famille pour laquelle on n'avait plus aucun respect, de la religion chaque jour au trajet, du levain d'athéisme qui fermentait dans les esprits, de l'inconduite, des vices ignobles des hommes de la jeune génération. Ô misérie, corum gaudia crimen habent, de ce fol amour, conséquence forcée du reste, pour une courtisane sans honte qui amenait un soldat, jusque-là loyal et brave, sur ce banc, d'où on ne se relève qu'avec la marque des indignes au front, cita à trois ou quatre reprises Cicéron, puis, se résumant en une période rapide, demanda, montrant l'accusé, au nom des principes sacrés, que la justice devait sauver du péril social, l'application sévère, entière de la loi. Dans l'auditoire, remué de mouvements divers, l'anxiété était profonde. La défense fut très faible. Le jeune stagiaire, chargé, presque malgré lui, de sauvegarder les intérêts de Martial, perdait la tête, pataugeait dans une argumentation mal cousue. La virulente philippique du ministère public avait élevé les débats à une hauteur qu'il désespérait d'atteindre. S'appuyant, faute de tout autre moyen de défense, sur les aveux faits dès la première heure par l'accusé, il adjura le jury d'admettre des circonstances atténuantes. Sa tâche était remplie. L'audience, menaçant de n'être levée que très tard dans la nuit, les huissiers apportèrent des lampes. Leur lumière, centralisée par les abat-jour d'opale, donnait des reliefs foncés aux robes rouges. Les grasses figures des juges, comme découpées sur ce fond d'or, prenaient une inexorable froideur. La salle était comble. Au dehors, contre les barreaux des fenêtres, des visages s'écrasaient. Il fallait menacer de faire évacuer pour établir le silence. Le jury entrait dans la chambre du conseil. Il en revint, au bout de 58 minutes, avec un verdict affirmatif sur toutes les questions. Pas de circonstances atténuantes. Le début du procureur général compterait. Son réquisitoire avait entraîné toutes les hésitations. L'honneur de la victoire lui restait intact.
Martial Renoux était condamné à la peine de mort pour homicide volontaire avec préméditation commis sur la personne de la fille Magdalena Salud, dite Perlite. Alors, pendant que la foule se retirait avec un sourd murmure d'écluses lâchées, Martial, que les gendarmes se préparaient à réintégrer dans sa cellule, se retourna du côté des jurés et, impassible, les dominant de sa haute stature, cria d'une voix forte « Messieurs, merci !»
Chapitre 12. Le matin du jour fixé pour l'exécution, une foule immense se bousculait aux abords de la place où, depuis un temps immémorial, le bourreau venait se livrer à ses sinistres exercices. Des masses noires se mouvaient confusément au versant des toits. Il y avait des grappes humaines sur la crête des murs d'alentour, au faîte des arbres les moins éloignés. Tout ce monde, hommes, femmes, enfants, attirés par l'appât d'un spectacle rare, avait passé la nuit à la Belle Étoile. Singulier enchaînement des choses de ce monde, l'ex-brigadier du 2e Spahi devait mourir, avili, sur cette place publique dont le nom évoquait un des plus glorieux souvenirs de l'armée d'Afrique. C'était un matin d'août. Développé en carré autour du vaste parallélogramme que formait la place, la cavalerie contenait le flot montant des curieux. Des fantassins circulaient, sac au dos, gardant l'entrée de toutes les voies adjacentes. L'affluence était telle qu'à divers intervalles, les chasseurs, refoulés par la lente poussée de la populace, durent faire cabrer leurs montures pour regagner le terrain perdu. Au milieu de la place, dans l'ombre bleuâtre des platanes, un grand silence régnait. Des attachés du parquet, des journalistes, des officiers, des sergents de ville allaient et venaient, les bras ballants, muets. Les becs de gaz fouettaient de reflets furtifs les cuivres des uniformes. De temps à autre, les chocs de sabre résonnaient, secs, vibrants, parmi les lointains hennissements des chevaux. L'air attiédi de cette claire matinée d'été roulait des parfums. Le ciel, pullulant d'étoiles, se revêtait d'une blancheur plus éclatante à mesure qu'approchait l'aube. Glacées de teintes changeantes, les branches feuillues jouaient avec la brise et, au-dessus de cette foule stupide, qui, impatiente, se ruait vers le fourgon, de l'intérieur duquel les aides du bourreau descendaient les bras de la guillotine, planait cette clameur assourdie, ce large bruit de voix et de rires qui rappelle si bien le frissonnement des grands bois lorsque, le jour paraissant, les premiers rayons de soleil dorent le moutonnement de leurs cimes. À 3 heures, un mouvement de houle se produisit. Toutes les têtes se tournèrent du même côté. Les pénitents gris, suivis du corbillard des pauvres, traversaient la mer humaine qui, aussitôt, se referma sur eux. La cagoule collée au visage, grotesques avec leur diversité de taille, ils se rangèrent au bas de la place et, ensuite, se groupèrent autour de leur crisse de bois. Derrière eux, au fond de l'obscurité, les petites lanternes rouges des aides couraient rapides. 3 heures et demie, les étoiles s'effaçaient une à une. L'aube se dépouillait de ses voiles de gaz, éclairant vaguement, comme avec des reflets de lumière électrique, les façades des maisons. Le feuillage redevenait vert. Les visages des badauds, luisants de sueur, faisaient songer à des figures de cire. Sous ce jour terne et indécis, les têtes rondes des enfants qui, haussés sur des épaules complaisantes, dépassant le niveau de la foule, comme le guerrier Turnus dans l'Énéide, regardés sans comprendre, ressemblaient à ces morts de la légende que les sorcières emportaient dans leurs antres. Sous les platanes, plus de fanaux rouges. La guillotine était dressée. Tout de noir habillé, le bourreau essayait le couperet au tranchant aigu. Le ciel bleuissait entre les deux montants, laissant voir l'acier du couteau, et, pareils à des points noirs, les hirondelles passaient avec des élans subis dans la gloire du soleil. 4 heures. Nouvelle ondulation. L'impatience redoublait. Les soldats, repoussés de tous côtés, ouvraient un passage à coups de crosse. Un lieutenant-colonel de chasseurs les excitait de la voix, criant « Qu'est-ce que vous foutez ici, tas de voyous ?» En même temps, le fourgon de la justice, l'ignoble panier à salade, arrivait au grand trot, serré de très près par les gendarmes. Alors, un cri de peuple en liesse, le même cri sorti de 30 000 poitrines, s'éleva, balayé presque aussitôt par la brise. « Le voilà ! Le voilà !
Le voilà !»
Le fourgon s'arrêta au centre de la place, à peu de distance de l'échafaud. Les représentants de la loi, le bourreau et sa suite, se portèrent près de lui. La portière fut ouverte. L'aumônier des prisons parut, précédant Martial. L'amant de l'Espagnol était nu-tête et en bras de chemise. Depuis sa condamnation, il avait maigri. Ses cheveux, coupés très bas, grisonnaient. Le prêtre se plaça près du condamné, l'exécuteur posa sa lourde main sur son épaule droite et tous trois se dirigèrent vers l'échafaud. Quand ils atteignirent la plateforme, les nappes d'or du soleil touchaient les toitures. Des gazouillements éclataient, avec le crescendo assourdissant d'une joie débordante. L'aumônier achevait sa prière. Il donna le baiser de paix à Martial et, se préparant à rebrousser chemin, balbutia « Je vous bénis, mon fils. Celui qui a attaché le salut du genre humain à l'arbre de la croix vous fera miséricorde. Mourrez en chrétien !»«
Soyez sans crainte !» répondit le condamné d'une voix ferme.
Puis, le retenant et d'un ton plus bas, « Dites à ma bonne mère et à mon vieux père que je les supplie de me pardonner. Ma dernière pensée sera pour eux. » Alors, relevant le front, il promena son regard autour de lui et, résolument, sans un frisson de défaillance, gravit les deux marches de la plateforme. Tout à coup, d'une brusque poussée, l'un des aides du bourreau le fit tomber sur les genoux. Une planche bascula. L'exécuteur tendit la main vers une corde qui pendait. Le cling métallique d'un ressort retentit, le couperet glissa. La tête grimaçante du charpentier venait de rouler, hideuse, dans le panier à sciure. C'était fini. Le cadavre fut couché dans le corbillard. L'aumônier et le commissaire central montèrent en voiture. Les cochers firent claquer leurs fouets. Précédé d'un piquet de gendarmerie, le sombre cortège s'engagea dans un chemin de traverse et se mit en route à fond de train pour le cimetière. Martial Renoux avait, pour parler comme les gazettes judiciaires, payé sa dette à la société.
Chapitre 13. Ce fut surtout à la propriétaire de la maison de prostitution que profita le tapage fait par les journaux autour de ce drame judiciaire. Les clients affluaient. Les premiers temps, il fallut doubler les provisions de bière et de café. On n'avait jamais rien vu de pareil. Les flâneurs, ceux-là même qui ne se rendaient là-bas que pour visiter le théâtre du crime, ne se retiraient pas sans laisser un peu de monnaie blanche dans la main, chargée de bagues, de la sous-maîtresse. Une semaine environ après l'exécution, dans la salle du bas, des matelots danois tirèrent le couteau contre des forbans grecs. Les matelots manquaient de femmes, les forbans avaient tout accaparé. Il y eut un épouvantable massacre. Les vitres furent brisées, le sang coula. Trois morts restèrent sur le plancher, la face tournée dans des mares de salive. Angèle la Toulousaine, qui, absolument saoule, avait dans la bagarre souffleté un des gardiens de la paix, accourus avec l'intention de prêter main forte, se vit colloquer pour ce fait 5 beaux mois d'emprisonnement. Le soir même, en faisant sa tournée, le gardien-chef la trouva pendue à l'espagnolette d'un vasistas dans les latrines de la prison.